point d'histoire.
Point d'histoire.
Point d'histoire.
Point d'histoire. Henri Moisé, bonjour.
Bonjour.
Alors aujourd'hui, on va aborder le thème suivant, l'Aveyron face à la guerre de 1914-1918. C'était quoi l'état d'esprit général à la veille de cette guerre ?
D'abord, je voudrais préciser que dans notre cheminement commémoratif, on parle beaucoup des batailles, du début de la guerre, Verdun. La victoire le 11 novembre, enfin l'armistice d'abord, et la victoire ensuite. Et pourtant, la guerre ne peut pas se résumer au seul combat et à la seule mobilisation des hommes. Il y a eu à l'arrière des efforts, des souffrances, des solidarités. Et je crois qu'il est aussi intéressant d'évoquer, quand on parle de 14-18, de la Grande Guerre, ce que fut la vie des civils. Ce que fut leur implication et ce qui correspond à ce que les historiens appellent le deuxième front. Mais le deuxième front, ce ne sont pas que des actes de civils, ce sont aussi des colères, ce sont aussi des mises en cause de cette guerre. Et je crois qu'il faut avoir un regard plus nuancé que parfois tels que les contemporains l'ont eu. Alors, quel est l'état d'esprit en Aveyron en 1914 ? Bien, c'est vrai que cet état d'esprit est dominé depuis de longues décennies, et on le retrouve à la veille de la guerre, par l'esprit de revanche. Oh, certes, cet esprit de revanche a des formes parfois nationalistes, mais il a aussi des formes plus populaires. L'Alsace-Lorraine perdue et que l'on souhaite, on sait, même si on ne veut pas la guerre, que l'on souhaite retrouver. C'est aussi à l'école que se développe le citoyen-soldat, l'impôt du sang. Il n'est que de voir, par exemple, le cours de morale qui est donné par un instituteur à Sainte-Afrique en 1896. Et l'on retrouve autour des mots « liberté », « égalité », fraternité, valeur fondatrice de notre République, aussi l'obligation pour chaque Français de participer si les circonstances, bien sûr, le permettent. Et bien, même si la France est un pays qui se veut pacifiste, il faudra participer peut-être à la guerre. Et cet esprit de revanche latent, populaire, disais-je, on le retrouve par exemple dans la fête de Sainte-Afrique en juillet 1913. Il y a déjà des chars. Et les trois chars qui défilent en ville sont constitués autour de thèmes récurrents depuis des décennies. Les Gaulois, Jeanne d'Arc, l'Alsace et la Lorraine. Ça résume, me semble-t-il, c'est le symbole même de cet esprit de revanche. Et pour compléter le tout, eh bien, il y a une remise de médaille aux vétérans de 1870 au pied de la Statue de la Liberté. Et comme l'état d'esprit est revanchard, même si on sait que ce sera une guerre juste et nécessaire, il y a aussi cette idée que la France reprend ses droits. Ça repose bien sur cette conception que la République est forte, mais pacifique, que l'on reprend ses droits sur une Alsace-Lorraine qui ploie, disait-on, sous le joug allemand. Et donc, on est à la recherche de ce qui est fort et symbolique. Et d'où les porteurs d'influence. Je crois que dans notre département, et à Sainte-Afrique en particulier, deux personnages vont incarner à la fois l'idée de guerre juste, de revanche. C'est De Castelnau, le général De Castelnau, qui a un rôle important depuis plusieurs années à l'état-major, et qui reçoit le commandement de la 2e armée à Nancy, donc à Lorraine. Et c'est l'abbé Ginisti, qui en mai 14, curé de Sainte-Afrique, est nommé évêque de Verdun. Et voilà, donc la Lorraine, la Meuse avec Verdun, de Castelnau d'un côté et l'abbé Ginisty de l'autre, ou Monseigneur Ginisty, qui vont incarner et ce lien étroit à la fois avec l'histoire et avec la revanche. Et puis il y a des écrivains avéronnais, l'abbé Bessou, bien connu de certains, le chantre des racines occitanes, et qui va écrire des textes assez remarquables dans un journal de Villefranche de Rouergue qui s'appelle d'ailleurs La Revanche, et puis les poèmes de François Fabien. D'où, lorsque la guerre menace, eh bien, je dirais presque logiquement, on va se retrouver dans l'union sacrée. Les divisions de l'histoire disparaissent et l'effort de guerre va monopoliser les énergies et les sentiments. La nation et la patrie ne font qu'un. La guerre, puisqu'on l'a déjà dit, est une guerre juste. La France veut retrouver l'Alsace et la Lorraine.
Et il y a le poids du religieux aussi.
Oui, cela vient compléter effectivement cette situation de guerre. Pourquoi le poids du religieux ? Il y a d'abord l'idée très ancienne de la France fille aînée de l'Église, et donc la France protégée de Dieu. Reste qu'il y a l'autre aspect, plus négatif, où certains développent la thèse selon laquelle la guerre qui éclate en août 14 nous est imposée comme une punition. Dieu veut faire sentir à la France qu'elle s'est séparée de lui par la séparation de l'Église et de l'État, et donc il est, par cette guerre, donné la possibilité de revenir à Dieu. Mais personne ne doute que la victoire quand même sera acquise, mais au prix du sang et des souffrances.
Alors donc en août 14, c'est l'entrée en guerre. Quelles sont les conséquences de cette entrée en guerre ?
D'abord la forte mobilisation. Lorsque la mobilisation est annoncée, nous sommes un samedi, 1er août, à 17h. Et le premier acte est de sonner le tocsin, c'est-à-dire que les cloches de la ville sonnent selon un rythme évidemment douloureux, au point même que cela fait dire à une sainte africaine, c'est le glas que l'on commence à sonner. Donc, on anticipe déjà sur la mort. La foule qui est prise dans la foire va se précipiter à l'église. Le lendemain dimanche, 2 août, c'est jour de mobilisation. Donc, on voit arriver à Sainte-Afrique les hommes de nos villages qui vont, évidemment, se diriger vers la gare. Et là, on a cette impression d'enthousiasme. Je dis une impression. Les drapeaux, les chants, les clairons, les tambours, il y a une manifestation évidemment très forte du point de vue patriotique. La réalité, on le sait aujourd'hui, était différente. La souffrance des uns, la peur des autres, la résignation de beaucoup. On est loin de l'enthousiasme ou de l'unanimité. Ces soldats sont majoritairement envoyés au 122e régiment d'infanterie de Rodez, mais où déjà, dans la préfecture, se forment d'autres régiments de réservistes. Le 322e, par exemple, ou le 274e. Avec les territoriaux, cela fait 7 à 8 000 hommes qui vont, dans les jours début août, se retrouver sur Rodez. À noter que ces régiments en formation sont rattachés à la 16e région de Montpellier, et tous ces régiments vont rejoindre la 2e armée de Castelnau, ce qui est l'occasion pour certains, évidemment, de rappel. À noter que la mobilisation se fait aussi hors de l'armée, dans les usines d'armement, et certains Aveyronnais et Sud-Africains sont dirigés sur Toulouse ou sur Castres, sur les poudreries ou les usines d'armement. C'est dire que ce 2 août, des milliers d'hommes sont prélevés des champs ou des ateliers. Cela va créer une contrainte énorme, en pleine moisson, puisque le 2 août, vu la nature même des blés ou des céréales, on était encore en plein travail. À ce manque de main-d'œuvre s'ajoutent les toutes premières réquisitions qui posent d'ailleurs un vrai problème, au point que le 5 août, devant le prélèvement de chevaux, les réquisitions de bœufs et de foin, le préfet doit demander aux maires d'organiser comme ils le peuvent cela, et surtout de faire en sorte de répartir à la fois le poids des réquisitions et le manque de main-d'œuvre. Il va falloir s'habituer, d'autant plus qu'on croyait que ça allait durer que quelques mois, et puis ça va durer 4 ans. D'où, pour les civils, un effort supplémentaire va être demandé, et la presse va jouer son rôle, non pas d'information, mais de bourrage de crâne. Il faut tout de suite donner confiance, et on est dans des formules parfois un peu surprenantes, où on apprend par exemple que les soldats français rigolent, je cite, sous les balles, que les obus allemands n'explosent pas, que c'est avec gaieté qu'on supporte les misères de la guerre, enfin autant d'expressions qui évidemment ne traduisent pas la réalité. Car la réalité, elle est autrement plus cruelle, et on peut la retrouver bien sûr dans les lettres que les soldats vont par millions envoyer à leur famille.
Oui, parce qu'il y a le poids des absents, donc.
Oui, ce poids des absents, et comment vont s'établir ces liens entre ces soldats qui vont progressivement d'une guerre de mouvement et d'offensive meurtrière, beaucoup de morts se font en 14, s'enterrer pour connaître la guerre des tranchées. Comment ces soldats, qui sont des fantassins pour la plupart, des paysans majoritairement, vont s'adapter à une guerre qu'ils n'avaient pas connue, qu'ils n'avaient pas surtout préparée. Une guerre qui, de par l'évolution de l'armement, devient de plus en plus une guerre industrielle. Et comment, dans cette guerre industrielle, qui devient une guerre européenne, vont s'intégrer des civils qui n'ont progressivement pour eux que la peur d'apprendre la mort de leur mari, de leur frère, de leur fils. Et comment ces civils vont-ils s'adapter à ces nouvelles conditions ?
Donc, je vais lire là l'extrait d'une lettre.
Oui, cette lettre, je vous la propose parce qu'elle est d'abord d'un Sud-Africain. Elle est du début de la guerre de Verdun, c'est le premier mois où le régiment en question est engagé dans un combat qui a commencé en février 16. Et la façon dont il raconte à sa famille ce combat auquel il participe est, à mon avis, tout à fait remarquable.
Voilà aujourd'hui 4 jours que nous occupons cette position et je vous garantis que ce n'est le rêve. Jamais depuis le début de la guerre, je n'avais vu chose pareille. Nous avons assisté à des combats, à des bombardements, mais rien n'est à comparer avec ceci. Je m'en rappellerai longtemps de la bataille de Verdun. Ça ne fait rien. Ils le veulent, Verdun, mais ils ne l'auront pas. Et puis, ils savent ce que ça leur coûte. Si vous lisez les journaux, vous devez voir tout ce qui se passe. C'est les plus terribles batailles qu'il y ait eu depuis le début. En plus des obus, c'est les gaz asphyxiants dont vous avez entendu parler sur le communiqué. Jusqu'ici, nous n'en avions jamais eu. Mais avant hier soir, à 6h30, nous avons eu l'occasion de recevoir les premiers. Nous étions dans l'abri où je me trouve maintenant. Nous commencions à souper. Tout à coup, il arrive un épais nuage de fumée. Comme il n'y avait pas de porte à l'abri, on n'a pas pu fermer et le gaz s'est répandu dans l'intérieur. On met vite les masques et on attend un peu. Seulement, au bout de 10 minutes, il a fallu sortir, et il ne faisait pas bon. Malgré toute leur saloperie, il n'y a pas eu de mal. Ils sont tellement crapules, il faut s'attendre à tout, et puis on dit que c'est le siècle de la civilisation. Nous sommes dans un pays perdu, il n'y a pas moyen de se ravitailler en quoi que ce soit. Pas de vin, pas seulement de l'eau pour boire. Quand nous étions au repos, nous en avons profité, mais maintenant adieu, plus rien. Tous les villages sont démolis, et les civils sont évacués, à 30 km de la ligne de feu.
Quand au bout de 8 jours, leur peau terminée, on va reprendre les tranchées. Notre place est si utile que sans nous on prend la pile. Mais c'est bien fini, on en a assez, personne ne veut plus marcher. Et le cœur bien gros comme dans un sanglot, on dit adieu au sifflot. Même sans tambour, même sans trompette, on s'en va là-haut en baissant la tête. Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes. C'est bien fini, c'est pour toujours de cette guerre infâme. C'est à Craonne, sur le plateau, qu'on doit laisser sa peau. Car nous sommes tous condamnés, nous sommes les sacrifiés. Huit jours de tranchées, huit jours de souffrance, pourtant on a l'espérance que ce soir viendra la relève que nous attendons sans trêve. Soudain dans la nuit et dans le silence, on voit quelqu'un qui s'avance. C'est un officier de chasseur à pied qui vient pour nous remplacer. Doucement dans l'ombre, sous la pluie qui tombe, les petits chasseurs vont chercher leur tombe. Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes. C'est bien fini, c'est pour toujours de cette guerre infâme. C'est à Craonne, sur le plateau, qu'on doit laisser sa peau. Car nous sommes tous condamnés, nous sommes les sacrifiés. C'est malheureux de voir sur les grands boulevards tous ces gros qui font leur foire. Si pour eux la vie est rose, pour nous c'est pas la même chose. Au lieu de se cacher, tous ces embusqués feraient mieux de monter aux tranchées pour défendre leurs biens, car nous n'avons rien, nous autres les pauvres puretins. Tous les camarades sont en terre et là pour défendre les biens de ces messieurs-là. Ceux qu'ont le pognon, ceux-là reviendront, car c'est pour eux qu'on crève. Mais c'est fini, car les troufions vont tous se mettre en grève. Ce sera votre tour, messieurs les gros, montez sur le plateau. Car si vous voulez faire la guerre, payez-la de votre peau.
La chanson de Craonne interprétée par Marc Augeret. Pourquoi cette chanson, Henri Moiset ?
Oui, mais je l'ai choisie par, je dirais, télescopage, pour télescoper avec la lettre précédente. Il y a en commun, c'est vrai, la traduction de ce que l'on appelle l'enfer des tranchées, les attaques meurtrières, les souffrances indicibles de ces soldats que, dans les différents combats ou dans les offensives, on envoie à la mort, même si l'obéissance est la règle. Alors dans la lettre, les soldats racontent leur vécu douloureux, décrivent à demi-mot, mais je crois que les familles devaient bien comprendre ce qu'ils subissent et ce qu'ils voient. Les gaz, l'artillerie, les villages dévastés, les privations, le froid, la boue, la soif. Et même si dans la lettre, il y a toujours cette confiance dans la victoire, Verdun ne tombera pas, on aura les boches, comme on disait, il y a quand même progressivement, au fil des années, une lassitude. Et cette lassitude, elle éclate en 17, et les premières mutineries qui en sont la manifestation démontrent, non pas, comme on le croit souvent, le désir de paix n'est pas un esprit antimilitariste ou anti-officier, c'est souvent des soldats qui se révoltent parce qu'ils en ont assez de ne pas comprendre cette guerre, qui en ont assez de subir parfois des ordres dont ils ne voient pas toujours la finalité. Et puis surtout, ils en ont assez d'être en permanence engagés dans ce conflit, en première ligne, sans avoir les capacités de repos, les permissions qu'ils espèrent tant. Et la chanson de Craon illustre ce moment clé de 17 ou après le chemin des dames, c'est-à-dire au nord de Reims et de Soissons, l'erreur du commandement du général Nivelle aboutit à des centaines, à des milliers de morts que l'on juge inutiles. Et ce sont souvent les meilleures unités qui se révoltent. Alors j'ai voulu montrer à la fois par la lettre sur Verdun et la chanson de Craon, justement cette contradiction qu'il y aurait. En fait, on s'aperçoit aussi que même chez nous, dans les lettres de certains de nos jeunes soldats, il y a l'expression de ce ras-le-bol. Et je crois que cette lettre que nous allons lire de janvier 1918 traduit d'une manière simple ce que sont ces sentiments de soldats qui, tout en espérant faire leur travail, leur devoir de citoyens et de patriotes, veulent aussi que la guerre cesse.
Comment ne voulez-vous pas avoir le cafard pendant cette maudite guerre qui ruine la France et sacrifie tous ses hommes? C'est bien beau de dire qu'il faut tenir. C'est surtout plus facile d'encourager ceux qui s'y trouvent que d'y aller soi-même donner l'exemple. Que l'on continue encore quelques mois, ce qui s'est passé en Russie, ce qui commence à se passer en Autriche et en Allemagne, viendra en France. Et alors? En attendant, je m'aperçois que ce sont toujours les mêmes qui sont à l'arrière.
Je crois que ça résume parfaitement. Et ce que même dans nos soldats du Sud-Aveyron, on peut ressentir. Il y a à la fois la révolution, enfin l'esprit révolutionnaire qui ne se passera pas, c'est vrai, chez nous, mais qui se passe déjà ailleurs. La Russie donne quand même quelques directions. C'est aussi la lassitude, et c'est toujours ce qui revient de plus en plus fréquemment, la haine de l'embusqué. Car les soldats sont toujours persuadés qu'ils sont, eux, en danger, alors que d'autres peuvent échapper par leur influence ou autre à cette maudite guerre.
Alors à l'arrière, qu'est-ce qui se passe? Alors on parle d'un deuxième front. Hein.
Oui.
Qu'est-ce qu'on entend par là?
Cette expression de deuxième front peut être ambiguë, c'est sans doute, effectivement, par complément du premier front qui est militaire, celui des soldats, celui de l'arrière. Et on connaît tous cette formule amusante où deux poilus parlant des civils disent « pourvu qu'ils tiennent les civils ». Eh bien, en fait, le deuxième front, c'est déjà effectivement l'effort qui est imposé à l'arrière, aux civils. Dans l'industrie, dans l'agriculture, dans les transports, partout où il faut remplacer les millions de soldats mobilisés et où il faut malgré tout produire. Mais le deuxième front, c'est peut-être aussi, au moins pour certains, le développement de l'esprit pacifiste. Ce sont aussi des grèves et ce sont aussi la nouvelle place que doivent assurer les femmes et qui vont devoir, évidemment, dans des conditions de travail difficiles, dans des conditions sociales particulièrement pénibles, assumer plus que leur rôle de mère ou d'épouse, assurer aussi l'outil économique. Alors, le deuxième front, pour moi, c'est aussi, me semble-t-il, et c'est ce que je voudrais démontrer pour l'Aveyron, le développement des solidarités. Je crois qu'il y a là un champ important de cette guerre où, bien sûr, vous parliez de l'absent, le poids des absents. Et la famille va, par le courrier, par le colis que l'on envoie autant que faire se peut aux poilus, c'est de l'argent qu'il faut, dont on se prive pour que le poilu reçoive son mandat. C'est le tabac que l'on achète souvent difficilement. C'est aussi rassurer par les lettres, démontrer au père ou au mari que l'exploitation continue, que les agneaux sont soignés, que le lait est ramassé, que les travaux sont exécutés. Et tout ce travail d'information, d'échange, et qui d'ailleurs se complète en retour par les conseils que le poilu envoie à sa famille. Pensez à ceci, pensez à cela, car même s'il est soldat, même s'il est réserviste et territorial, il a le souci de garder l'outil de travail et de confier par des conseils, par des recettes à sa famille, le soin évidemment de préserver. Et c'est important d'autant que les conditions économiques sont souvent mauvaises. Autre solidarité pour nos régions, c'est d'accueillir les réfugiés. Car les régions du Nord et de l'Est ont été en grande partie évacuées. Et on voit par exemple à Sainte-Afrique, en 1915, un groupe d'Ardennais et qu'il va falloir loger. En 17, ce sont des gens du Nord, de Fourmies, qui sont accueillis. Ou ce sont même, outre les évacués, ce sont des étrangers qu'il faut recevoir. Alors là, ça pose un problème, parce que ces étrangers que Sainte-Afrique reçoit sont des Polonais, en fait Polonais-Allemands, puisque la Pologne n'existe pas, et est sous contrôle en partie allemand. Et ces Polonais étaient des travailleurs qui viennent de Saint-Étienne et qu'il faut loger, qu'on met en fait en résidence surveillée à Saint-Gabriel, où les rejoindront d'ailleurs des Allemands, considérés comme suspects. C'était des Allemands qui avaient été engagés dans la Légion étrangère et qui, en fin de contrat, évidemment, se retrouvent devenus ennemis, aussi curieux que cela paraisse. Autre forme de solidarité, c'est vis-à-vis des blessés. Alors là, je crois que notre secteur, notre région de Sainte-Afrique autour de Mire est en première ligne avec les hôpitaux auxiliaires, c'est-à-dire des maisons de convalescence, de repos, plus que hôpital au sens strict. Et Sainte-Afrique, évidemment, a plusieurs antennes, une à la maison du peuple, ce qu'aujourd'hui on appelle le familial. Il y a aussi l'école laïque qui a une petite antenne pour des blessés. Il y a le couvent de Saint-Joseph de Cluny. Il y a même une maison Auvergne. Et ce sont des centaines de soldats qui bénéficieront de soins attentifs et de convalescence protégés. Et puis pour les femmes, il y a une implication dans la solidarité qui correspond mieux à leur travail domestique. Ce sont les ouvroirs, ces ateliers où les femmes, librement et selon des horaires qui leur conviennent, peuvent faire du tricot, peuvent faire de la couture. Alors, pourquoi le tricot, pourquoi la couture? Parce qu'on envoie des gants, on envoie des chaussettes, on envoie des cache-nez, hein, ou autre cagoule tricotée aux soldats. On fait aussi des draps, on fait des torchons. En fait, c'est du linge qui est destiné aux hôpitaux de campagne, là où les grands blessés, évidemment, doivent être particulièrement soignés. ces ouvroirs ne sont pas que le fait de Sainte-Afrique, même si c'est là que l'activité est essentielle. Dans la plupart des villages de notre région, il y a des petits ouvroirs qui, selon les mêmes modalités, vont fabriquer des mouchoirs, des tissus destinés aux hôpitaux de l'armée. Et puis, autre solidarité, l'argent. Si le travail y contribue, l'argent est aussi un élément. Cet argent est collecté lors des quêtes patriotiques. Et Dieu sait si tout le long de la guerre, elles seront nombreuses. Alors, elles sont motivées sur des thématiques qui peuvent nous surprendre. On comprend la journée du blessé, où l'on ramasse de l'argent pour aider les blessés. La journée du 75, c'est l'occasion évidemment de glorifier le canon mythique, le fameux 75, qui paraît-il était si efficace. La journée des éprouvés, la journée des veuves, la journée des orphelins. Chaque mois, tout au long de la guerre, il y a cette sollicitation qui d'ailleurs aura un rendement moindre au fur et à mesure que la guerre se prolonge. En Aveyron, il y aura même la journée de l'Aveyron pour tenter de récolter quelques sommes pour aider les soldats. Alors, à quoi sert cet argent ? À faire des cadeaux, à envoyer des colis, à envoyer du tabac. Autant de choses qui peuvent atténuer les douleurs des poilus. Et puis il y a une œuvre très originale sur laquelle je voudrais insister parce qu'elle résume bien ce que peut être cette solidarité. C'est à Cap-de-Nac, la Croix Bleue. Cette œuvre qui s'inscrit à côté d'autres organismes, la solidarité aveyronnaise par exemple. La Croix Bleue est d'initiative cléricale. Fin août 14, le curé de Cap-de-Nac lance l'idée d'une association qui pourrait aider les soldats. L'idée est simple, Cap-de-Nac est une gare importante, de nombreux trains passent dans ce carrefour ferroviaire, et l'idée est d'abord d'accompagner les soldats qui partent vers le front ou les permissionnaires qui en reviennent. C'est de leur servir un petit repas, de les accompagner avec un café chaud, que sais-je encore. Et puis, au fur et à mesure que la guerre s'intensifie, il faudra aider d'autres convois ferroviaires beaucoup plus demandeurs. Ce sont les convois de blessés. Et donc, la Croix Bleue à Cap-de-Nac va s'organiser pour avoir une salle d'attente permettant à des blessés de se reposer, où on peut même apporter des soins immédiats. Et comme on a besoin à la fois de nourriture et d'argent, eh bien la Croix Bleue va solliciter les dons, et c'est vrai qu'il y a l'entreprise Roquelaure qui fabrique des conserves, donc il y a là des possibilités, et l'argent va être utilisé évidemment de la même manière que partout ailleurs, en petit cadeau, en avantage matériel et divers. À noter que deux quêtes à Sainte-Afrique auront une finalité un peu surprenante. L'une, qui se veut patriotique, c'est pour offrir une épée d'honneur au général de Castelnau, en 16. Je vous signale que cette épée, d'ailleurs, est déposée à la Maison de la Mémoire. Et l'autre quête à finalité patriotique religieuse est la quête qui eut lieu pour financer le lustre de la victoire qui est toujours dans l'église paroissiale.
Alors, quelles sont les difficultés et souffrances des civils ?
Oui, parce que si nous parlons beaucoup des solidarités, nous sommes bien dans le contexte de guerre, de souffrance, de mort et souvent de privation. Oui, l'arrière n'est pas fait que de, je dirais, satisfaction de mouvements patriotiques, il y a aussi les douleurs. Alors d'abord, la permanence de la mort. Je crois que l'on oublie trop la hantise de toutes les familles de combattants d'apprendre un jour que leur homme, leur père ou leur mari est porté disparu, ce qui est moins cruel d'abord que la mort, mais porté disparu, ça peut vouloir dire aussi qu'il est prisonnier, on peut se raccrocher à cette idée, mais aussi qu'il est disparu pour toujours. Donc cette permanence de la mort est un des éléments, je crois, de souffrance, surtout quand le courrier n'arrive pas. Or, il faut savoir que chaque jour, il y a des millions de lettres, mais qu'en cas de combat, la poste peut être perturbée, la poste aux armées, hein, ou que, aussi, en cas d'offensive, pour des raisons militaires et de secret, on bloque le courrier. Et si des millions de lettres sont bloquées pendant 8-10 jours, voire plus, après, les postes aux armées sont encombrés et le courrier a du mal à arriver. Et quand le courrier arrive, ça peut être en fait une bonne nouvelle, mais qui est déjà déconnectée de la réalité si le soldat a été tué. Première souffrance. Deuxième difficulté, la main-d'œuvre. Ce que on oublie trop souvent, c'est que les femmes sont amenées, nous l'avons déjà dit, à assumer un travail dur pour elles. Des femmes qui vont devoir labourer, faire un travail qui était réservé aux hommes et qui, en plus de leur travail familial ou domestique, vont devoir assurer l'entretien du troupeau. Et cette main-d'œuvre, évidemment, qui manque, sera un peu compensée soit par des étrangers, on voit dans nos régions arriver des Espagnols, des Portugais, même à Sainte-Afrique, et petitement par quelques prisonniers allemands. On reverra ces prisonniers dans les grandes fermes du sud d'Aveyron, ou même sur les chantiers et de la voie ferrée qui était destinée à rejoindre Albi. Et puis il y a les souffrances et les difficultés économiques. Et là, nos journaux locaux, le bulletin paroissial par exemple, est très attentif à ces hausses de prix, à ces restrictions, à ces privations qui sont imposées à la population. Alors, on parle beaucoup des privations, des restrictions de 40-44. Mais il faut savoir qu'en 14-18, il y a eu des cartes de restrictions. La viande est difficile à trouver. Le sucre, parfois, disparaît. Le charbon, en plein hiver, qui manque. Et donc, il y a des tickets déjà en 14-18. Ces hausses de prix qui, évidemment, rendent la situation encore plus terrible parce que les salaires n'augmentent pas. Et parce que aussi il y a, sinon un marché noir, du moins une tendance à la spéculation. Et les journaux aveyronnais se plaignent de voir sur les marchés des acheteurs étrangers hors de, disons, venant d'ailleurs, qui, à prix d'or, achètent souvent sans négocier. Et comme les gens souffrent, comme il y a des privations alimentaires, on revient à des formes de charité, le fourneau économique, traduisons les soupes populaires qu'à Sainte-Afrique proposent certaines religieuses. Et on comprend mieux les difficultés liées aux hausses de prix, aux privations, quand on sait par exemple que les grèves vont avoir lieu, des grèves à Cransac, des grèves à Decazeville dans le bassin minier, parce qu'on estime que les conditions de salaire sont insuffisantes. C'est un syndicalisme revendicatif tout à fait classique, que même les menaces policières ou judiciaires n'arrivent pas facilement à juguler. Vous voyez donc, je crois que la souffrance, elle n'est pas que celle du front, elle est aussi à l'arrière. Comment sublimer ces souffrances? Il y a bien sûr le désir de la victoire, il y a le sentiment patriotique, reste que toutes ces souffrances ont été payées au prix fort.
Donc cette première guerre mondiale, ça a été une saignée démographique considérable. Donc est-ce qu'on peut faire un point au niveau national et puis au niveau local?
Oui. Il est vrai que la Grande Guerre, si gentiment glorifiée aujourd'hui, puisqu'on parle de fêter le centenaire du début de la guerre en 1914, ne doit pas faire oublier que cette guerre que l'on cite volontairement victorieuse a été durement payée et que la victoire a un coût et un goût amer. Alors démographiquement, la France se retrouve avec 1 400 000 morts et des millions de blessés, d'invalides, de gueules cassées, puisque l'expression, il y a 3 millions de blessés. 1 400 000 morts, dont beaucoup étaient pères de famille. Donc le bilan ne peut pas être fait uniquement en vie, il faut aussi ajouter les orphelins. Ces jeunes qui vont grandir pupilles de la nation. Pour l'Aveyron, le bilan démographique est tout aussi catastrophique. 15 000 morts dans le département. Et sur ces 15 000 morts, 9 500 sont des célibataires, c'est-à-dire des gens qui ont entre 20 et 30 ans. C'est dire que le département est saigné à blanc. Et dans nos, si l'on regarde autour de Sainte-Afrique, proportionnellement, ce sont les petits villages qui ont un nombre de morts élevé. La Bastide de Pradines, village de 330 habitants, 33 morts. Ce qui veut dire que c'est 10% de la population qui a été anéantie. Et si l'on regarde que Tauriac de Camarès, un village qui n'a même pas 300 habitants, 24 morts. C'est dire que ce sont les populations rurales, paysannes, les jeunes agriculteurs qui vont disparaître pour beaucoup. Néanmoins, il y aura une reprise démographique par d'abord l'appel à des étrangers, c'est vrai, et puis par une reprise de la natalité, car toute période de guerre, certes, est marquée par une chute, par une dénatalité, mais le retour à la paix va progressivement permettre, je dirais, aux familles de se reconstruire et aux couples d'être prolifiques. Reste néanmoins que entre 1911, 398 000 habitants en Aveyron, 1921, 333 000. Autrement dit, ça ne compense pas les pertes et les disparitions entre les deux recensements.
Vous allez nous donner quelques indications bibliographiques sur ce thème. Oui, vous avez apporté deux bouquins.
Dans une littérature très abondante, j'en ai retenu deux. Un sur l'économie de l'autre front, 14-18, l'autre front, édité aux éditions ouvrières, qui est un ouvrage ancien, fait par des historiens, qui a le mérite de donner des exemples régionaux de cet effort de guerre à l'arrière. Et puis, sur l'autre thème qui me paraît essentiel, la place de la femme pendant ce grand conflit, c'est l'ouvrage de Françoise Thébault, « La femme au temps de la guerre de 14 » chez Stock, qui est un ouvrage que personnellement je trouve remarquable parce qu'il a vocation à, je dirais, à l'exhaustivité, tous les aspects dans lesquels sociaux, économiques, médicaux, voire même dans les mœurs, où la femme, la place de la femme va se trouver transformée. Ça ne veut pas dire forcément bouleversée. Le machisme ambiant va reprendre ses droits, y compris sur le plan du travail. Le féminisme n'est qu'amorcé. Ce sont les prémices de la libération de la femme, mais il est vrai que la garçonne, déjà, est en train de se constituer.
Merci beaucoup, Henri Moiset. À la prochaine fois.
Point d'histoire.
Point d'histoire.
Point d'histoire.
Point d'histoire.